Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Villas.
Jonathan McCarthy, Walid Acharchour, Simon Dutin sont là jusqu'à 22h. On est là jusqu'à minuit. Après, l'after prendra le relais avec Nico Jamin, notamment. On est en train de faire les doutes, les certitudes après les deux matchs de l'équipe de France, les victoires face à l'Irlande et face aux Pays-Bas. Alors, tu sais quoi, changement de dernière minute, Walid. Parce que là, pour rien vous cacher, hein, vous cacherez dans l'after, vous le savez, ni dans Génération After. On était parti sur un avis tranché, Eduardo Camavinga, le grand gagnant de ce rassemblement de l'équipe de France.
Jérôme Bretagne a dit que c'était nul, donc Walid.
Non, non, non. Et pendant la pause, t'as eu une fulgurance, Walid.
Coup de frein à main.
Sur Maignan, Lloris. Et alors, je vais pas spoiler. Jingle Walid d'abord.
Pablo Neruda, qui était-il, Walid, quand même?
Pablo Neruda, qui était le milieu de terrain de Cadiz.
Allez, on va arrêter là-dessus.
Excellent.
Bon, ouais. Il est bon. Je te ferai jamais de vanne comme ça, parce que je suis comme toi, je sais pas qui c'est.
Exactement. Voilà,
c'est
alors que Nico, il est tout le temps dans la, tu vois, la condescendance. C'est
pas ah ouais, carrément.
Non, il snob un peu, tu vois. Il sait
tu peux nous relimiter, Nicolas?
Je le fais pas très bien, Nicolas.
Si, si, ouais, non, il l'a pas.
C'est pas celui que je travaille le plus.
Ah, je crois que c'était pas mal la dernière
fois. Non, c'était pas ouf. Alors,
ouais, je voulais parler.
Alors, vas-y, il y a un truc que tu nous disais pendant la pause, on s'est dit avec Simon et Jonathan, mais vas-y, parle là-dessus.
Non, mais c'est vrai que je voulais parler de Camavinga, mais par rapport à ce qu'il a fait sur le match d'hier et sa concurrence avec Tchouaméni, que ce soit au Real Madrid ou en équipe de France.
Mais il y a un truc qui t'a énervé.
Y a un truc qui me chafouine un petit peu là depuis hier, hein, que ce soit sur le réseau ou même chez les observateurs, c'est qu'on j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de s'extasier sur Mike Maignan et sur ce qu'il réalise depuis deux matchs avec l'équipe de France, même s'il y en a qui reprocheront un peu la culture de l'instant. Mais Mike Maignan, ça fait quand même un bon bout de temps pour ceux qui suivent la Serie A ou même la Ligue 1 avec Lille qu'on connaît ses qualités et son potentiel. Et en faisant ça, en étant dithyrambique sur Mike Maignan, beaucoup nous reprochent, entre guillemets, de manquer de respect à Hugo Lloris. Mais en fait, on peut tout dissocier. On peut dire que Hugo Lloris a été un gardien extraordinaire avec l'équipe de France dans les compétitions internationales, même s'il avait quelques défauts, et notamment les deux dernières séances de tir au but. Mais c'est pas dénigrer Hugo Lloris. Et on peut aussi s'extasier sur Mike Maignan et sur ce qu'il peut apporter sur les 5-6 prochaines années au très très haut niveau en équipe de France. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de... On n'a pas le droit de...
En fait,
de...
si t'aimes l'un, ça veut dire que tu détestes l'autre.
Voilà.
C'est comme Messi et Ronaldo.
Non, quoi. Mais on peut dissocier. Et personne... Toute personne sérieuse qui ont vu l'équipe de France en Coupe du Monde ou à l'Euro sur les dernières échéances connaissent la valeur de Hugo Lloris. On a tous vu la finale avec cet arrêt monstrueux sur Lionel Messi à la 94e minute. On a tous vu cette parade contre l'Uruguay, ce match contre la Belgique. On a voilà, mais on a aussi vu la séance de tir au but contre la Suisse. On a aussi vu la séance de tir au but contre l'Argentine. Ça fait partie de l'histoire d'Hugo Lloris avec ses très très bonnes choses, ses moins bonnes. Et Mike Maignan, il y a un vent de fraîcheur, il y a un truc subjectif aussi qu'on a
mais
le droit de kiffer.
Mais la question est-ce qu'il faut s'enflammer, c'est ça la question.
Non, mais
aussi.
Encore une fois, on a le droit de prendre ce que fait Maignan avec l'AC Milan, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions cette saison encore avec son match contre Tottenham, de voir que la palette globale de Mike Maignan, que ce soit dans la relance, sur sa ligne, sur sa capacité à être aussi spectaculaire, c'est aussi subjectif. Le football, on a le droit de préférer des gardiens tout en respectant les autres. Voilà, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, mais même dans la profession actuellement, j'ai vu quelques journalistes, c'était ah non là, oh, attention Hugo Lloris, il faut rien dire sur Hugo. Oui, Hugo Lloris est une légende de l'équipe de France. Maintenant, on a le droit aussi de s'extasier sur Mike Maignan.
Mais je pense qu'il y a deux facteurs qui font qu'on en arrive à cette situation. Je trouve ça un peu curieux que dans une société où on fait la promotion de la non-binarité, les gens réagissent de manière aussi binaire. C'est soit tout noir, soit tout blanc.
Ouais, voilà.
Soit tu es pour, soit tu es contre.
Et moi, ça, j'aime bien le gris, moi.
Assez, voilà, c'est très bien. Et la vie est une longue succession de nuances de gris. Dans tous les sujets, dans tous les domaines. Malheureusement, les gens réagissent un petit peu bêtement. Et donc, forcément, toi, t'aimes bien les nuances de gris. Les gens réagissent un petit peu bêtement. Et du coup, voilà, ça donne cette situation où forcément, si t'aimes Maignan, c'est dénigré, Lloris. Et il y a un deuxième aspect. Vous avez pensé que je vais peut-être un petit peu trop loin.
Ce qui est rare, d'ailleurs, ouais, hein, chez toi.
Tu fais jamais ça.
C'est très, très rare. Dans le genre pondération.
Ouais, vraiment, t'es pas le.
Je pense que je suis le plus mesuré.
Arrête.
Tu mesures combien,
d'accord.
Ah d'accord.
C'est moi le plus grand du plateau. Je pense qu'il y a quand même un truc un peu puant derrière tout ça.
C'est-à-dire du racisme.
Pas du racisme, mais un racisme. Oui, si, une sorte de discrimination un peu latente. Il y a une certaine frange de la population, parce que j'ai vu des tweets passer. Il y a une certaine frange de la population qui se targuait d'avoir le capitaine de l'équipe de France, qui était un bon Français, pour parler d'une manière un peu abjecte. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même ça qui est en filigrane. Je te dis pas que c'est l'explication numéro un, mais quand tu prends la température comme tu l'as fait sur les réseaux, tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de réaction très sous influence.
Après, sur les réseaux, tu trouveras peut-être qu'il y a aussi une frange, t'as raison.
Quand je parle de réseau, il y a aussi des confrères et des journalistes qui s'exclament là-dessus. Attention, mais avec Magnan, il a rien fait.
On dit les réseaux, il faut pas donner trop d'importance aux réseaux. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, les réseaux, ça fait partie de la masse d'informations et des flux d'informations qui circulent.
Simon,
et on est obligé de prendre en compte.
Vas-y, Simon, t'as pas entendu sur la comparaison finalement qui a l'air fatale entre Loris et Magnan. En même temps, on est obligé de la faire, mais. Même si c'est dur de comparer le recordman de sélection avec un gars qui vient d'arriver. Mais.
Effectivement, moi je me suis beaucoup battu tant que Loris était le gardien de l'équipe de France pour qu'on reconnaisse à sa juste valeur ce qu'il avait accompli sous le maillot des Bleus. J'ai pas vu, pour être tout à fait honnête, de réaction de ce type-là. Moi je pense que si tu t'enflammes pas après deux prestations comme ça de Maignan, qui effectivement, Walid l'a rappelé, était attendu par une immense... d'observateurs du football
on
qui attendaient
déjà
de le voir en bleu
du monde.
Moi, tant que Loris était là, je me battais pour dire il a quand même gagné le droit d'attendre que le sélectionneur lui dise qu'on a trouvé meilleur. Effectivement, je trouve que ce serait absolument stupide de dévaloriser les performances de Maignan sur ces deux matchs-là. Et effectivement, ce qu'il réalise sous maillot de l'AC Milan, parce qu'on rappelle trop peu souvent quand même que lui, il est allé gagner le titre en Italie, ce qu'il a accompli là-bas est assez exceptionnel. Donc j'ai rien vu passer. De ce type-là, je trouve ça évidemment complètement stupide. Et je suis pas loin de penser, comme Joe, que s'il y a des gens pour nous dire attendez, Loris, c'était pas bien quand même, le capitaine des Bleus, je suis sûr que malheureusement, il y a une partie de ces gens-là qui place le curseur dans une zone pas très nette sur la couleur de peau et toutes ces conneries.
Sur la représentation. Dans l'équipe de France, basée sur la couleur de peau. Ça, c'est un argument qui est abject, mais qui est très souvent utilisé par des jambes un peu bas du front.
Non, mais moi, je parlais pas forcément que des tweetos, encore une fois. Je parlais aussi de la vie publique, des observateurs. On peut aussi avoir envie de fraîcheur à un poste de gardien, où je trouve que sur les dernières années, Hugo Loris a eu des bons passages avec Tottenham notamment, mais la vie d'un joueur n'est pas que en sélection. Nous, qui bouffons du football tous les week-ends, la hype que j'ai pour Mike Maignan, elle dure pas depuis les Pays-Bas et le penalty qui l'arrête sur Memphis Depay.
C'est ça le problème.
Donc, voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est content, qu'on est aussi content qu'un gardien, parce que il y a beaucoup de gardiens, de très très bons gardiens, Sébastien Frey.
Mais tu vois, Pierre nous écrit sur le chat là de la chaîne Twitch RMC Sport, il nous dit en fait c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que les gens utilisent la performance, enfin les performances sur les deux matchs de Maignan pour dénigrer Loris.
Oui, mais ça aussi mais ça, ces gens-là, s'ils sont sérieux, je ne pense pas que ce soit des gens sérieux. C'est-à-dire que c'est pas des observateurs qui disent ça. C'est pas possible d'avoir vu Hugo Loris en équipe de France en expliquant qu'il a jamais fait ce que Mike Maignan a fait hier, par exemple.
Le vrai problème de tout ça, je pense qu'il faut mettre le doigt dessus, c'est que la succession, et c'est pas quand tu dis, c'est pas aujourd'hui qu'on a découvert Mike Maignan. C'est vrai, moi je pense sérieusement que depuis la dernière saison à Lille, il a le niveau d'être, il aurait dû être installé comme numéro un.
Il avait dit dans le CFC, je vais être du niveau de Neuer, de Oblak, etc.
Le problème, c'est que la succession d'Hugo Lloris a un peu traîné et fait que les gens se sont peut-être un petit peu impatientés. Tu parlais des observateurs, je pense que ça fait quand même trop... Depuis l'Euro, et même avant l'Euro, il y avait quand même des discussions. Depuis l'Euro, les gens attendent de voir ce passage.
Moi, je l'avais appris de mes voeux. Ouais.
Depuis l'Euro, les gens espèrent que Hugo Lloris se mette de côté. Et maintenant que ça arrive, les gens sont... Voilà, ils réagissent de manière... C'est comme quand t'attends un cadeau depuis très longtemps, quand tu l'as, tu fais n'importe quoi. Voilà, c'est ça.
Et surtout, lui, en 10 secondes, Nico, il s'est programmé depuis très longtemps pour... On peut rappeler quand même l'anecdote du PSG. Il est troisième gardien du PSG. À l'entraînement, Zlatan lui met filoche sur filoche et dit shit keeper. Et puis il finit par arrêter un coup franc ou un penalty de Zlatan et il répond à Zlatan shit striker. Alors qu'il a 17 ans, Zlatan il s'est dit lui avec ce petit on tient peut-être quelqu'un.
Dans un instant, on ouvre la page Ligue 1. Michel Derzakarian sera notre invité dans Génération After. Ce sera sur les coups de 20h30.
T'as vu l'adaptation de la vie tranchée quand même.
Bon, 21h30, j'ai dit 20h30. Ouais, sinon c'est on revient vers le futur. C'est le décalage horaire. Je suis plus jetlagué depuis ce week-end.
L'adaptation, Jimmy Brown, il est content un peu de l'adaptation de la vie.
Il va
franchée.
Te le dire dans les Andes. D'accord. T'es moyen, il a dit. Voilà, c'était pas ouf.
Ok, d'accord.
À l'école, tu levais la main.
Tiens, il y a la suite de la deuxième journée des qualifs pour l'Euro 2024. Et surprise pour l'instant, 12 minutes de jeu. L'Écosse mène 1-0 face à l'Espagne. Sinon, il y a 0-0 partout ailleurs. Dans un instant, avis tranché de Jonathan Macardy. L'Olympique de Marseille doit respecter son engagement vis-à-vis de Dimitri Payet. Il est sous contrat jusqu'en 2024. Il joue pas beaucoup, mais pour Jonathan, Marseille doit respecter le contrat de Dimitri Payet, même s'il joue peu. A tout de suite dans Génération After avec Olivier Dacharchour, Jonathan Macardy et Simon Dupont.